Et donc, ce que je vous propose, c'est
De prendre un petit moment, en fait, oui. Parce que j'imagine qu'il y a peut-être, vraisemblablement, dans ce que Dominique vient de présenter, il y a certainement un certain nombre de choses qui résonnent par rapport à vos pratiques en établissement, par rapport par rapport à votre vécu disciplinaire aussi, mais notamment par rapport à vos préoccupations professionnelles. Donc, ce qu'on se disait, c'est que ce serait peut-être intéressant, là, maintenant, de prendre 10-15 minutes par îlot de table. Pour en discuter entre vous, alors peut-être déjà entre vous et vous-même, et puis après avec les collègues, en regardant un petit peu justement quels sont comment est-ce que ça résonne par rapport à votre métier, c'est-à-dire que ici vous faites pas tous le même métier dans cette formation, et je pense que c'est intéressant aussi de s'interroger finalement sur ce qui vient d'être dit dans votre métier, comment est-ce que ça résonne, qu'est-ce que vous pensez pouvoir en faire. Comment est-ce que peut-être vous voyez pas ce qu'on peut en faire, enfin voilà, pour après éventuellement repérer un certain nombre de choses qui seraient intéressantes à rapporter à tout le groupe, ou bien pour interroger Yves et Dominique pour aller un petit peu plus loin. Et on vous donne la parole, ceux qui veulent parler, alors soit au nom de leur groupe, soit individuellement, il n'y a pas de souci. Interroger Dominique ou Yves.
Question, interrogation, surprise, résonance avec vos pratiques et vos vécus professionnels.
Nous, on est revenu sur le sens. On a une petite discussion sur donner du sens par une approche concrète, ou donner du sens par la mise en situation, notamment la mise en situation problème, la notion de défi. Enfin, ça, on est un peu allé dans ce sens. Après, sur l'enseignement mathématique, la pratique telle qu'elle est faite, la pseudo-rigueur et donc l'image aussi des mathématiques, hein, les mathématiques discipline où on peut être fier d'avoir été mauvais, ce qui n'est pas le cas dans toutes les mathématiques. L'effet prof de maths. Après, une des questions à vous poser, c'est par rapport à ce qui a été signifié de accrochage, décrochage. Est-ce que il y a des mêmes cohortes où vous trouvez finalement un peu en parallèle avec un même, pourrait dire un même enseignant ou un petit peu un même des mêmes pratiques pendant une durée donnée, en parallèle, est-ce qu'il peut exister des humiliations à côté de toutes les autres choses positives par rapport à la réussite, ou d'un côté la pénibilité, l'absence de pénibilité, etc.
Alors, je reprends à la dernière question, effectivement. Alors, effectivement, on a des classes entières qui ont été interrogées, donc on a les réponses de tous les élèves de telle classe. Alors, ça dépend, parce que la pénibilité, par exemple, oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des élèves dans une classe qui disent oh, « c'est difficile, j'y arrive pas, etc., il y a trop d'exercices », et l'élève d'à côté qui dit oh, « ben, c'est très facile, j'y arrive bien ». Ça, vraiment, c'est vraiment partagé. En revanche, je n'ai jamais trouvé... Enfin, je ne pense pas, en mathématiques en tout cas, de classe où un élève dise « j'ai été humilié », enfin raconte un événement pénible pour lui qui s'est passé cette année, d'accord ? Et des élèves qui disent « c'est très bien parce qu'on est aidé, soutenu, etc. » Non. C'est-à-dire que, voilà, et on ne l'a pas, on pourrait gloser à l'infini. Est-ce que c'est la classe qui fait l'enseignant? Est-ce que c'est l'enseignant qui fait la classe? J'ai pas d'idée là-dessus. Simplement, tout ce que je peux vous répondre, c'est ça. Il y a simplement des croisements qu'on peut effectuer. Parce que comme on a été interrogé des élèves, vous voyez, ceux qui disent le collège Jean Rostand d'Armentières. C'est-à-dire qu'on a des élèves dont on sait très bien quel a été le parcours scolaire. Et on reconstruit des événements qui sont dits par plusieurs. C'est-à-dire qui ont été des événements marquants pour plusieurs élèves et qui sont repris donc par ces élèves un an plus tard. sais pas si je me fais bien comprendre, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans une classe en troisième, et en seconde, alors qu'ils sont dans des secondes différentes, ils font référence au même événement. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même un discours très construit, des souvenirs qui sont très structurés, partagés. Donc il me semble que si on ne trouve pas de contradiction dans une même classe, d'accord, entre des humiliations et d'absence d'humiliation, ça veut peut-être dire qu'effectivement, il y a des enseignants qui n'humilient jamais. Enfin, qui... Voilà. Je le pense, je l'avance très prudemment, hein, parce qu'effectivement, ce qui peut être humiliation pour quelqu'un n'est pas toujours humiliation pour quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Mais voilà.
Et en particulier, lier ça à ce que vous avez dit tout à l'heure comme apparaissant très peu sur l'impossibilité de se voir changer effectivement. Et donc, est-ce que par rapport au raccrochage, donc comment dans les effets, oui, entre guillemets, nouveau départ et... pour certains élèves, alors par exemple élèves de lycée professionnel, voilà.
Alors, je crois qu'on a un ou deux exemples, c'est tout, en maths. Hein. C'est-à-dire, c'est très rare. Je crois qu'il y a un seul élève en lycée professionnel qui nous dit que cette année, d'accord, ça va mieux, parce que l'enseignant donne des formules et n'essaye pas de les expliquer, enfin, quelque chose comme ça. Et une élève de terminale L, d'accord, donc terminale littéraire, etc., qui dit que c'est en premier, mais je crois que c'est parmi vous, qui dit que c'est en première littéraire qu'elle a compris, oui, ce que c'était que l'esprit mathématique. Je crois que c'est ça. C'est vraiment des exemples rarissimes. C'est-à-dire qu'on a plutôt, j'ai plutôt tendance à voir apparaître des discours définitifs. C'est-à-dire que plus on monte dans le cursus, enfin, plus les gens vieillissent, on va dire ça, plus leurs discours sont durs, définitifs et tranchés. Voilà. Je suis incapable de vous dire si c'est toujours vrai. Voilà.
Plus on enfonce le clou et plus il s'enfonce, hein, plus on tape dessus, c'est sûr. Moi, je voulais dire que finalement, tout ce que vous avez dit, aussi bien ce matin que cet après-midi, c'est sur le problème du sens, de la représentation qu'a le jeune, mais plus précisément, non pas du savoir scolaire ponctuel, mais plutôt de l'apprentissage. Et je crois que finalement, tout le travail, et d'ailleurs la réforme des collèges qui nous oriente plus sur comment il fait, comment il apprend. Je crois que la préoccupation du jeune est plus une préoccupation du comment, qu'est-ce que je vais y trouver dans l'apprentissage. Est-ce que c'est ce que vous avez soulevé à travers vos 16 dimensions qui structurent le vécu, c'est-à-dire comment je me situe. Et même à travers ce que vous avez évalué en mathématiques aussi, on voit bien qu'est-ce que je vais gagner dans l'apprentissage. Et là, il y a une préoccupation sûrement dans la formation des enseignants, très centrée sur les savoirs scolaires et un peu moins centrée sur peut-être l'apprentissage et le travail qui se fait l'apprentissage, surtout au collège où on a une problématique adolescente qui est particulière, où la motivation c'est 16h30. Donc, voilà, mobiliser les jeunes, c'est vrai qu'on a une problématique identitaire et je sais que dans mes formations, par rapport au décrochage, tout le travail consiste à mettre dans notre pédagogie, dans le didactique, passer du pôle scolaire vers le pôle social, quoi, puis revenir progressivement vers... C'est-à-dire, qu'est-ce que le jeune va y trouver dans l'apprentissage? Un élément de reconstruction, de valorisation, retrouver l'estime de soi, etc. Comment construire ça au travers des évaluations, au travers de ce qu'on propose, des niveaux d'évaluation, de la différenciation qui se met en place, bien sûr. Mais vous avez abordé aussi le problème plus global que c'est une approche systémique, bien sûr, hein, institutionnelle, dans l'établissement, un climat global qui intervient, et pas seulement problème. Vous avez fait l'entrée par le problème didactique et pédagogique, je pense que c'est bien pour éviter le décrochage. Mais c'est vrai que vous aviez fait apparaître d'autres problèmes de valeurs, de culture qui dépassent le problème scolaire et qui fait que finalement cette confrontation, c'est pas conflictuel pour tout le monde, mais dans le cas du décrochage, c'est souvent conflit entre les valeurs familiales, par exemple, les valeurs personnelles, les valeurs du quartier et les valeurs de l'établissement scolaire qui sont plus universelles, plus objectives, alors que les autres valeurs sont plus subjectives et personnelles. Voilà, donc moi je retiens ça, qu'on n'est plus sur une problématique identitaire pour travailler. Comment une problématique identitaire au travers des apprentissages, bien sûr.
Alors voilà, parce que je suis. C'est pas tout à fait les réponses que j'apporterai, enfin, mais ce sont les miennes, hein. Vous avez raison, hein, bien sûr, les valeurs, l'identité, etc., jouent un grand rôle. Mais je ne sais pas comment faire, dans ce cas-là, pour peser sur des valeurs ou l'identité. Par contre, je trouve qu'il y a une représentation des contenus disciplinaires sur laquelle, moi, je pourrais agir. C'est-à-dire que accrocher, j'ai vu et j'ai assisté à des moments absolument exceptionnels dans des classes de mathématiques parce qu'il y avait des questions posées et des questions disciplinaires. C'est-à-dire que, et ça je sais faire, enfin je sais transformer une situation de maths en une situation questionnante un petit peu, quoi. C'est mon métier après tout. Et là, effectivement, on retrouve, je vais vous raconter, ce sera plus simple. C'est dans la classe de 6e qui suit l'école Freinet. C'est une classe de collège, et c'est un collège de Mont-Saint-Barreul, on va dire un collège dans un milieu assez défavorisé, pour le dire très vite. Et nous nous étions rendus avec les élèves de la classe de CM2 dans la classe de 6e pour qu'il y ait une mixité. Et les gamins de l'école Freinet avaient pour tâche de dire sur quoi ils avaient cherché, eux, en maths. Et il y avait un groupe, on était 5 autour de la table, il y avait les 2 élèves de l'école Freinet, dont un disait, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est une figure, alors vous voyez, et il avait présenté simplement sa figure qui était extrêmement belle. D'accord, esthétiquement, c'était très joli, et il disait, voilà, et j'ai réussi à faire ça. Et il y avait en face les 3, qui étaient vraiment les pires de la classe, on va dire ça comme ça, de futurs décrocheurs même. Et il y en a 2 qui sont dit, mais c'est vraiment intéressant, comment t'as fait ? Et qui ont commencé à tracer. Le prof n'en revenait pas. Et il y a le meneur de la bande qui était resté soigneusement, d'accord, à l'écart, et qui leur a dit, ah non, 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 hein, on ne va pas travailler là-dessus. Hein. Vous voyez, c'est là qu'on se dit qu'on a des moyens, effectivement, de raccrocher ou d'accrocher des élèves dont on pourrait dire qu'avec leur identité, leur valeur, ce qu'ils vivent à la maison, etc., ils ont toutes les raisons du monde pour décrocher. C'est fait, mais il faut effectivement dans ce cas-là que les questions soient les bonnes. D'accord ? La question était très bonne, hein. Là vraiment ça les passionnait. Et il faut faire attention effectivement, comme vous l'avez dit, au climat de la classe. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui puisse dire, bon là ça suffit, hein. Moi j'ai dit qu'on ne va pas quand même travailler en classe. Mais c'est les deux. Je crois qu'on ne peut avancer que sur les deux, mais dès qu'il y a des questions passionnées, et les élèves peuvent être passionnés. C'est ça aussi. Peut-être est-ce qu'on ne l'a pas assez dit, mais que les élèves peuvent s'intéresser à des questions disciplinaires, même parfois complexes. Tout à fait. C'est pas la complexité, justement. Je me souviens, quand on avait des unités de formation, nos étudiants allaient sur le terrain et ils n'avaient jamais vu de classe avant. Et ils revenaient en disant, mais c'est incroyable, tant qu'on ne travaille pas, les élèves bavardent, font du chahut, enfin, etc. Et ils avaient été très surpris en disant, mais chaque fois que ça y est, qu'il y a un problème au tableau, vraiment une question qui est posée, on n'entend plus rien. Et ils n'y croyaient pas.
On était dans un parcours d'apprentissage, là.
Même d'appropriation.
Oui, d'appropriation, mais c'est le parcours d'apprentissage. On n'était pas dans une formule d'évaluation. Et ce qui me semble intéressant, c'est ça, de s'intéresser au parcours d'apprentissage beaucoup plus qu'à l'acquisition de savoir, dans un premier temps, dans un détour, pour accrocher un jeune.
Oui, mais si on n'a pas de contenu en visée, je ne sais pas comment on peut faire.
Ah,
voyez-vous ce que je veux dire ? Il faut bien avoir aussi des contenus d'apprentissage.
Oui, bien sûr, d'avoir non seulement des contenus d'apprentissage, mais j'irais même plus loin. C'est-à-dire que pour moi, un élève, c'est le statut d'un élève, c'est qu'il soit évalué, parce qu'aujourd'hui, c'est la référence. Donc le niveau d'évaluation est à choisir par l'enseignant, justement, et toute la difficulté de l'enseignant, c'est de proposer des évaluations suffisamment accessibles pour les plus faibles. On est dans une différenciation de l'évaluation qui permet aux plus faibles d'accrocher justement et de s'engager dans un parcours d'apprentissage accessible.
C'est très intéressant cette discussion-là sur l'évaluation. On va voir du coup dans les disciplines, les normes professionnelles, tout ce qui est la pédagogie qui est derrière.
C'est-à-dire, mais là c'est une discussion à avoir. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'évaluation.
Du coup, pour pas casser la dynamique, et être dans le, oui, parce que, enfin,
On a tous peut-être un peu réagi là sur l'évaluation, mais fermer le volet évaluation. Enfin, c'est intéressant de voir qu'une approche qui est tout à fait légitime en EPS de pouvoir abaisser la barre en dessous d'1m40 pour pas pénaliser les plus petits, se re-questionne dans d'autres disciplines parce que on peut pas différencier les objectifs à atteindre. Comment ? À la baisse, voilà.
Non, peut-être juste une réflexion personnelle, c'est que je trouve effectivement tout à fait intéressant l'approche de pouvoir faire le lien entre didactique et émotion, qui n'est pas forcément courant et qui me semble absolument effectivement déterminant. Bon, c'est pas une question, mais c'est une constatation que je partage. Voilà.
Alors, au niveau de notre groupe, on avait un questionnement concernant le sentiment de fierté. Qui a priori n'apparaît pas chez vos personnes interrogées. Oui. Ça nous surprend par rapport aux conceptions initiales qu'on avait. Est-ce que vous pouvez les développer ? Est-ce que c'est quelque chose qui absolument n'existe pas dans les petites classes et commence à apparaître au niveau du lycée, voire au-delà ? Et d'un point de vue personnel, moi j'avais une question concernant l'aversion que certains ont pour les mathématiques dès le collège. Est-ce qu'on pouvait le retrouver dans des disciplines qui étaient a priori dans des temps anciens utilisées pour la sélection comme le latin ? Est-ce qu'on le retrouvait également dans ces disciplines-là ou pas ?
Oui. Voilà. L'allemand aussi ? L'allemand aussi. Oui.
Étant donné que je suis germaniste, j'ai oublié.
Je réponds, mais c'est très rapide comme réponse. Le sentiment de fierté, j'étais aussi surprise que vous parce que je m'attendais, j'avais un horizon d'attente. Effectivement, j'adore les maths parce que j'ai réussi à faire ou des choses comme ça. Et ça n'apparaît que très, 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 très peu. Voilà. Quel que soit le niveau. Et je m'interroge, je vous donne une piste, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est la forme des questions que nous avons posées, d'accord, qui a interdit à la fierté d'apparaître ? Ça, c'est tout à fait possible, parce qu'après tout, peut-être qu'il n'y a, ça ne mobilisait pas effectivement, ce sentiment. Et puis, peut-être parce qu'ils ne se sont pas toujours sentis autorisés. Voilà. Voyez, comme c'était c'est un questionnaire, dans les entretiens aussi, c'est quand même avec des gens qui ne connaissent pas a priori, même s'ils nous ont vus quand même plusieurs fois. Peut-être que c'est quelque chose qui est difficile à dire. Voilà. Et qu'on préfère soigneusement dire qu'on adore les maths parce qu'on n'a pas trop de difficultés et que c'est plus facile à dire. Voilà, c'est simplement ça. Pour l'instant, je n'en sais rien. Il faudrait qu'on aille réinterroger les gens en leur demandant vraiment, mais il n'y a pas eu des moments où tu t'es senti, etc. Et l'aversion pour les maths, alors l'aversion pour le latin, elle arrive, alors qu'on a très peu d'élèves qui font du latin, oui, elle est très présente. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est une bonne idée parce qu'effectivement. De dire que c'est peut-être une aversion pour les disciplines qui apparaissent à un moment ou à un autre, légitimement ou pas.
Il y a l'imposition.
Oui, il y a l'imposition. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple... Oui, c'est vrai, tu as raison. J'avais signalé. Par exemple, pour l'allemand, c'est très différent des autres langues vivantes. D'accord ? Enfin, elle est un peu à part, parce qu'effectivement, il y a des élèves qui disent qu'ils ont été obligés de faire de l'allemand. Oui, par les parents, pour être dans la bonne section. Enfin, je n'apprends rien. Voilà, c'est comme ça. Ils disent j'aime pas. Alors que les gens qui ont choisi de faire espagnol disent oh, moi j'adore. Parce que...
Nous, ce que j'avais envie de dire, c'est que par rapport à l'entrée du décrochage scolaire disciplinaire, pour nous, elle n'est pas du tout incompatible, elle n'est pas du tout contradictoire avec le décrochage scolaire en général, parce qu'on a pu observer que les élèves qui décrochent, donc quand on les voit, c'est déjà un peu trop tard, et qu'ils sont absents de tous les cours, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a eu un cours, une discipline qui a qui a provoqué le divorce et la propagation dans les autres disciplines. C'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt à trouver le mécanisme de décrochage disciplinaire, parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui se jouent. Et on peut l'observer aussi parce que dans notre collège, quand on a voulu mettre en place des dispositifs pour le raccrochage, et qu'on a permis à des élèves, on leur a dit, voilà, on va te permettre de pas de sécher, mais enfin de ne pas assister à tous les cours. Est-ce qu'il y a des cours que tu veux qu'on maintienne ou tu as envie de continuer d'aller? Eh ben, il y avait des cours qu'ils voulaient maintenir, et tout en rentrant dans les dispositifs d'aide. Donc, je pense que l'entrée par discipline, enfin, le décrochage disciplinaire, il est parlant, quoi. Et je trouve que c'est ça. Voilà, on pensait que c'était. Il fallait le souligner, que c'était pas du tout contradictoire.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Voilà. Je pense qu'effectivement... Non, ça va dans le sens de ce que vous disiez. C'est pour ça que j'ai eu l'impression que c'était que ça pouvait paraître pas contradictoire pour certains, alors que nous on l'observe. Il y a des gamins qui veulent continuer de suivre des cours alors qu'ils sont pas forcément bons dans ces matières-là, mais oui. Ils sont pas en divorce, ils sont pas ils sont en décrochage, mais ils veulent quand même continuer d'y aller. Alors qu'il y a des disciplines pour lesquelles vraiment le décrochage se traduit en aversion et en non volonté de suivre le cours. Voilà.
Oui, mais justement. Tout à fait. Oui, oui, c'est curieux. Hein, c'est, enfin, curieux, je ne sais pas.
Mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut être décrocheur d'une discipline et pas dans d'autres, alors qu'il y a quand même le processus d'apprentissage. Je pense que c'est vraiment, ça se situe au-delà du processus d'apprentissage, mais vraiment d'un rapport privé à une discipline. Quoi. Parce qu'il y a des élèves qui sont décrocheurs dans certaines disciplines et pas du tout dans d'autres. Voilà.
Oui. Et c'est très curieux, je vous citerai simplement, c'était le discours d'un élève dans un entretien, même dans une observation de classe, un élève qui ne voulait plus aller dans une classe particulière, effectivement dans une matière, et qui avait expliqué à l'enseignant, mais c'est pas vous madame, c'est la matière. Voilà. Et ce qui était, voilà, que faire ?
Dans notre groupe, on rejoignait justement ce constat-là. Par contre, c'est vrai que vous nous éclairez sur ce qui peut accrocher ou faire décrocher des mathématiques, mais du coup, ça reste relatif parce que nous n'avons pas le pendant dans les autres disciplines. Or, vous, je pense que vous avez effectivement un éclairage sur l'ensemble des disciplines qui vous donne une typologie, une spécificité de la discipline par rapport aux autres. Alors, est-ce qu'il faut entendre que c'est comme vous nous l'avez dit au début, parce que celle-là, elle a un vécu très, très fort chez l'ensemble des personnes, et qu'elle génère beaucoup plus de, pas de dégoût, mais on va dire de sentiments négatifs que de positifs. Alors, est-ce que c'est ça qui la rend remarquable ? Et est-ce que vous pouvez aussi nous aiguiller justement sur la spécificité qu'elle a par rapport à d'autres disciplines ? Est-ce que c'est son poids dans l'évaluation ? Est-ce que c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut y entrer avec un certain nombre d'investissements dans les apprentissages, etc., etc.
Alors,
le etc., etc. n'étant pas spécialement explicite.
Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai que nous avons étudié... beaucoup de disciplines scolaires, en fait. Donc, il va parler après du français. Donc, ça va faire déjà un peu éclairage. Alors, j'hésite à dire... c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le fait que les mathématiques soient un objet autant fréquent, je vais dire, de haine ou d'amour, hein, les deux, c'est-à-dire soit une discipline aussi aimée et aussi détestée, est une spécificité de cette discipline. Maintenant... pourquoi, en fait, vous me demandez un peu pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est une discipline qui est centrale dans les évaluations ou conçue comme centrale dans les évaluations ? Ça,
c'est surtout qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on part du postulat qu'elle est vraiment spécifique et que c'est une entrée dans l'accrochage et le décrochage ? Ou est-ce que pour traiter l'accrochage et le décrochage, l'entrée disciplinaire que vous nous proposez fait qu'on aurait besoin d'envisager l'ensemble des disciplines ?
Je vais vous dire que c'est une question passionnante et à laquelle je n'ai pas de réponse et nous sommes là pour ça. Mais vraiment, et je ne le dis pas pour m'en sortir, c'est vraiment une vraie question. J'ai pas de réponse. Non. Parce qu'il me semble que ça doit être très différent selon les niveaux du cursus, même auxquels on s'intéresse. Mais vraiment, je la retiens, enfin, je la note, et je n'ai pas de réponse. Hein. Du tout.
qui était difficile et qui était mal perçu, effectivement, avec des vécus très négatifs, et que c'était pas le cas dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qui fait que dans d'autres pays c'est pas le cas? Est-ce qu'il y a un historique des mathématiques en France qui fait que, soit sur un mode sélectif ou élitiste, ou est-ce qu'il y a des pédagogies ou de la didactique finalement différente sur les mathématiques qui font que, eh bien, c'est pas perçu de la même façon dans des pays étrangers?
J'ai que des éléments vraiment de réponse, hein, de très succincts. Je vais vous donner simplement la différence avec les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il n'existe pas de programme d'instruction officielle, hein, déjà. Mais en fait, ils suivent à peu près les mêmes choses, disons, en mathématiques. Et ça fonctionne de façon extrêmement différente, puisque aux États-Unis, c'est fait par apprentissage par cœur de formules. Je vais vous donner un exemple, j'espère que vous me pardonnerez si c'est un exemple un peu trop précis, vous me le direz. Je ne sais pas si ça fait écho, l'apprentissage des inéquations du premier degré à une inconnue en classe de quatrième ou troisième, qui est un point noir des élèves, parce qu'à chaque fois, vous savez, c'est 2x moins 3 supérieur ou égal à 4x moins 2. Comment on fait en France? Je veux dire, c'est par une technique qu'on dit, je vais la réciter de mémoire. Vous faites passer les x d'un côté, puis les constantes de l'autre, et puis après vous divisez, puis si c'est négatif, vous changez le sens, et puis si c'est positif, vous changez pas le sens, etc., etc. Bon. D'accord, c'est-à-dire, il y a un discours rodé, et il y a des exercices, alors là, il y en a des milliers, c'est toujours la même chose, où on fait faire à l'élève. Exactement, toujours la même chose, c'est-à-dire, c'est la technique d'accord, la technique est à refaire. Aux États-Unis, on donne la formule. On vous dit, voilà, ax plus b inférieur ou égal à cx plus d, ben voilà, la solution c'est x supérieur à. Et je vous dis, les b moins c moins ça, c'est-à-dire que vous apprenez par cœur ce que c'est. Voilà. De même, peut-être les plus anciens, enfin, comme moi, se souviendront qu'on étudiait les équations du second degré à une inconnue, ax carré plus bx plus c égale 0. De mon temps, on étudiait avec la formule. X plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A, enfin quelque chose comme ça. Il y avait une formule à apprendre par cœur. Il y a une dizaine d'années, on demandait aux élèves de refaire toute la démonstration, à chaque fois. Et on n'avait pas le droit, surtout, de mettre des formules. Donc il y a bien des façons d'enseigner les maths qui sont complètement différentes. En lycée professionnel, par exemple, on a un collègue qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, c'est P, V, et puis température. Ça va, pression, volume, température. Il y a P, V d'un côté. Les profs de LP, ils font un dessin avec un triangle. Vous voyez? Il y a P, il y a V sur T. Et selon qu'on connaît l'un, on a le quotient ou le produit. C'est lumineux pour les gamins. Ça y est, ils s'en emparent. Et ils ne cherchent pas à comprendre, au fond, d'où vient... ils ne reprennent pas à chaque fois la formule en reprenant. Donc, il y a bien des façons d'enseigner qui sont différentes, qui sont des choix. Qui sont des choix même culturels. Je peux vous en parler jusqu'à demain, parce que je vais au Togo. Alors, je vois au Togo, on peut se demander, par exemple, pourquoi on enseigne au Togo la mesure des poids au primaire, alors que c'est un pays où il n'y a pas de balance et où personne ne pèse rien. Donc pourquoi? On mesure les longueurs, hein, c'est ça, c'est pas ce que je veux dire, hein, les volumes, oui. Personne ne pèse, il n'y a pas de balance. Donc c'est interrogeant, hein, les choix qui sont... Voilà, je m'arrête là, parce que pour dire qu'effectivement, chaque système scolaire, à un moment donné, a des choix, et on peut savoir qu'on a des possibilités. Et ça donne des résultats différents.
Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd?
Voilà, exactement. Je suis un peu...
Bonjour. Par rapport à votre exposé, nous avons retrouvé effectivement... votre exposé fait vraiment écho à notre vie professionnelle, puisque nous sommes enseignants de lycée professionnel, essentiellement à table. Et donc, le décrochage scolaire et les facteurs du décrochage, on les retrouve bien dans nos classes, au travers de nos différentes disciplines. Par contre, il y a juste une question, un facteur qui m'interpelle. Vous avez parlé du décrochage par les valeurs et la sélectivité. J'ai un peu de mal à comprendre comment la sélectivité peut être un facteur de décrochage. Pour moi, ce serait une conséquence d'un autre facteur de décrochage, c'est-à-dire que l'élève qui aurait subi une injustice et une sélectivité pour effectivement dire que les mathématiques sont un facteur de sélectivité, mais pour moi ce n'est pas un facteur de décrochage en lui-même. Alors je me trompe peut-être, est-ce que dans les questionnaires que vous avez eu entre les mains, il s'agit bien de la raison primaire finalement du décrochage scolaire, ou est-ce que les personnes qui ont rempli les questionnaires pouvaient cocher plusieurs possibilités?
On a oublié de le dire, mais qu'on est bête. Donc voilà, c'est ça. C'était du texte libre.
Du texte.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout à cocher. C'est-à-dire, c'est pas des questionnaires, si vous voulez, où on coche des facteurs qui sont proposés. Si on leur a demandé, simplement, on leur a demandé quelle est votre discipline préférée, enfin votre matière préférée, même parce que ou quelle est ta matière préférée, ça dépend. Et en dessous, on a dit pourquoi. Donc. D'accord, c'est pas la même chose. Enfin, donc c'est de la reconstruction de discours hein, d'élèves. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que.
Je voulais juste dire quelque chose sur l'entame de votre intervention que j'ai trouvé intéressante. Hein. Bon, mis à part le fait que ce qu'on disait vous parlait quelque peu, mais vous avez parlé du LP donc, comme un lieu de, voilà, où le décrochage était visible. En même temps, par exemple, les travaux de Djellab ou ceux de notre collègue hein, qui était jusqu'il y a 2 ans prof en LP montrent que c'est aussi un lieu de raccrochage. Parce que justement, on change de système disciplinaire. Maintenant, on retombe sur le fait, effectivement, du type d'orientation qui a amené dans l'endroit. Donc vous voyez, je trouve que c'est assez intéressant cette double vision qui évite des approches voilà, un peu trop réductrices ou monolithiques de tel ou tel lieu.
Alors j'avais deux questions, une qui est plus personnelle et la deuxième qui était plus collective sur nos échanges de tout à l'heure. La première, c'est est-ce que le désamour des mathématiques qui intervient au collège, même si on sait que pour l'histoire-géographie, c'est l'inverse, est-ce que c'est vrai pour l'ensemble des matières, ce qui ferait du collège un monstre ?
Enfin non, c'est pas vrai pour toutes les matières. Non. Il y a des matières qui sont aussi aimées au primaire qu'au collège. Il y a des disciplines donc comme l'histoire qui sont pas trop aimées, on va dire, au primaire et qui sont appréciées au collège. Vous avez tous les cas de figure. Non, ouf. Vraiment. Oui. Non. C'est.
Ah non, tant mieux.
Voilà. C'est pas.
Et la deuxième est plus collective. On regardait un petit peu ce qui était facteur d'accrochage et facteur de décrochage dans un esprit de construction, et on se rendait compte que finalement il y avait un réel effet négatif au sens photographique. C'est-à-dire que ce qui était facteur d'accrochage était aussi facteur de décrochage dans l'autre sens, donc très difficile d'intervenir d'un point de vue disciplinaire, si ce n'est peut-être la seule entrée, c'était par le sens.
Il me semble qu'au contraire, ça clarifie les possibilités d'intervention, puisqu'on sait que ce sont les axes fondamentaux du vécu. Donc je dirais au contraire, ça clarifie un peu les choses.
Un aspect psychologique, vous dites au départ, intérêt pour plus tard, un intérêt personnel, ça fait écho à ses préoccupations personnelles, il trouve du sens. Après vous dites, c'est facile, donc c'est une situation qui lui semble qu'elle lui est accessible, hein, il peut y arriver. Il y a de la curiosité, donc il y a du défi, donc il y a un aspect, on expérimente la situation, il y a cette autonomie qu'on laisse. Il y a des exos appréciés, il y a de la maîtrise, la réussite.
Oui.
Hein, voilà, c'est autant d'éléments qui nous indiquent qu'il faut proposer des situations où il va peut-être sentir qu'il a ce sentiment de compétence, en tout cas. Hein. Et enfin, vous mettez l'enseignant aidant, c'est-à-dire l'enseignant disponible, l'enseignant qui va aider, qui va faire un étayage, un accompagnement, et à la fois va apporter une certaine sécurité dans l'apprentissage. Là, on a autant d'éléments, comme disait ma collègue, des apports de la psychologie cognitive, à travers Brunner, Mandura, tout ça, dans le travail entre pairs, le soutien, l'étayage qu'on peut faire, l'accompagnement, les neurosciences qui nous indiquent qu'un adolescent, on a besoin d'avoir une communication très particulière, étant donné que c'est une boule d'émotions, donc il faut que l'autorité de l'auteur est importante, puis la psychologie, il faut que ça ait du sens, il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'on lui laisse de l'autonomie. Je crois qu'à travers votre exposé, vous avez vraiment abordé tous ces éléments qui, dans une formation, il faut les serrer, les remettre en ordre pour les rendre intelligibles, bien sûr, à l'égard des enseignants. Mais je pense que vous avez apporté beaucoup d'éléments de réponse à eux. Et surtout grâce à vos statistiques en plus, là, ça vient étayer notre propos.